on bouge.
Maud Émilie Métotte, notre kinésiologue, est avec nous ce matin en studio, comme c'est sa bonne habitude. Et on a papoté, on a parlé de toutes sortes de choses, puis on n'a pas demandé à Maud Émilie de quoi elle allait nous parler ce matin.
Ah, j'ai posé la question. J'ai posé la question. Sheila n'a pas écouté. Donc, Maud Émilie,
okay.
On va parler de quoi ce matin?
C'est ça, on va encore faire de l'orgisme.
L'orgisme.
Pauvre petite vieille madame.
Ah oui, je te dis. Donc, ce matin, on va parler de l'activité physique et du cerveau des jeunes.
Ah oh, oui. Okay, je l'ai entendu.
Donc, c'est finalement, ça revient.
Oui, ça revient. C'est le cerveau de pas de jeunes.
Donc, ben, il est bien connu que le cerveau des jeunes continue de se développer à travers l'enfance puis de l'adolescence. Hein. C'est pas quelque chose qui arrête quand on est. Là. On n'a pas le cerveau complètement développé à ce moment-là. Par exemple, le volume total du cerveau, plus particulièrement la matière grise, va arriver à maturation à l'adolescence. Il y a aussi plusieurs structures, comme l'hippocampe et l'amygdale, qui vont continuer de se développer en demeurant plus sensibles à l'exposition environnementale. Donc, c'est vraiment de ces deux structures-là qu'on va parler aujourd'hui. L'hippocampe, c'est juste pour aider, parce que même moi, je ne me souvenais pas exactement à quoi ça servait l'hippocampe.
Merci.
On s'entend, ce n'est pas le petit animal dans l'eau.
Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que j'entends en
ouais,
ce moment.
Exactement.
Ce n'est pas de lui qu'on parle.
Non, c'est un autre genre d'hippocampe. Donc, c'est une petite zone du cerveau qui fait partie du cortex cérébral. Le rôle, dans le fond, de l'hippocampe, c'est dans le traitement spatial, donc dans l'espace, la navigation puis la mémoire. En fait, ça permet de stocker les souvenirs à long terme puis de créer une résistance à l'oubli de ces souvenirs-là. Se souvenir de nos souvenirs, carrément. De son côté, l'amygdale est aussi située dans le système limbique là, comme l'hippocampe qui est dans le cortex cérébral également. Donc, le système limbique a comme fonction la régularisation des émotions puis l'encodage des souvenirs, puis en particulier ceux qui sont reliés à la peur.
OK.
Bon. Alors, voilà. Dans ce contexte-là, il y a une équipe de chercheurs de plusieurs pays qui se sont questionnés sur l'effet de l'activité physique, hein, qui est un type d'exposition environnementale, là, parce que c'est quelque chose qu'on fait, qu'on pratique ou non, c'est pas tout le monde qui fait de l'exercice. Puis, justement, qu'est-ce que l'activité physique avait comme effet dans le développement du cerveau des jeunes dans le passage de l'enfance à l'adolescence? Oh, okay. Donc, pour ce faire, bien, évidemment, c'est des grosses, grosses études, là. Ils ont analysé les IRM de plus de 1000 enfants qui, à ce moment-là, avaient 10 ans. Et ils ont refait des mesures, d'autres IRM, là, plus tard dans le temps, alors que ces mêmes enfants étaient âgés, à ce moment-là, de 14 ans. OK? Fait qu'on a vraiment le passage là, de l'enfance à
l'adolescence.
Oui, exactement. Donc, voici les conclusions de l'étude. C'est qu'il y aurait une association longitudinale entre l'activité physique et le volume de l'amygdale chez les jeunes. Donc, on voit que probablement plus on fait d'activité physique, plus le volume de l'amygdale augmente chez les jeunes en fonction de l'activité physique qui est pratiquée. Au niveau de l'hippocampe, il y a une association longitudinale aussi, mais c'est vraiment moins
c'est
sûr.
Minime.
Ouais, ouais, vraiment, là, c'est beaucoup plus... beaucoup plus...
C'est plus flou, on va dire. Ouais.
Exact.
Là, on se rappelle, l'amygdale, c'est celui qui est relié à la peur.
Oui, l'amygdale, okay, c'est vraiment le système là, qui a un impact sur les émotions puis les souvenirs.
OK, parfait, c'est ça.
L'hippocampe, c'est vraiment au niveau de la gestion de l'espace puis la navigation dans l'espace et tout ça. Et encore là, l'encodage des souvenirs. Fait que c'est deux systèmes qui sont très liés.
Très semblables.
Oui, exactement. En fait, c'est très, très proche dans le cerveau. Quand on regarde des IRM, là, on voit que c'est juste à côté. C'est dans le même système limbique, dans le cortex. Donc, il y a une association pour les deux, mais vraiment plus forte au niveau de l'amygdale. Puis là, vous remarquez, je ne parle pas d'association significativement, qui sont statistiquement significatives, pardon. Oui. Donc, c'est des associations. OK? Parce que c'est comme ça, donc c'est comme ça. C'est pas clair hors de tout doute. Donc, ce qui est particulier, c'est qu'il semblerait que ces associations-là seraient spécifiques seulement à ces deux régions du cerveau, puisqu'il n'y a pas de différence au niveau des autres mesures plus globales qui ont été faites dans le restant du cerveau. T'sais, ils ont regardé la matière grise, par exemple, la matière blanche et plein d'autres structures, le volume total du cerveau aussi, puis il semblerait qu'il n'y aurait pas d'association entre le fait de pratiquer de l'activité physique et le cerveau dans son entièreté, dans le fond. Ça pourrait s'expliquer par le fait que ces deux régions qui pourraient être plus plastiques, donc qui peuvent se développer en fonction d'une exposition environnementale comme l'activité physique. Et là, c'est intéressant parce que les chercheurs ont avancé peut-être certaines explications par rapport à cette ces associations-là. Donc, ils ont noté que l'activité physique, c'est une expérience enrichissante qui permet le développement neural de certaines régions du cerveau par son utilisation des facultés de décision, de navigation dans l'espace, puis du contrôle inhibiteur. Le contrôle inhibiteur, ce que c'est vraiment un processus cognitif là, du cerveau qui permet de résister à la tentation que vont représenter certains automatismes ou stratégies intuitives. Donc, par exemple, au sport, si sans réfléchir, on décide de faire tel mouvement, mm-hmm. ben, le contrôle inhibiteur, si on a l'habitude de pratiquer ce sport-là puis qu'on prend consciemment la décision que ce n'est pas le mouvement à faire ou que ce n'est pas l'action à porter, ben, ça renforce ça. Okay. C'est ça, le contrôle inhibiteur. Dans le fond, c'est d'avoir un frein sur notre automatisme qu'on ferait sans y penser.
Est-ce qu'il y a des catégories de sport, par exemple, qui ont été enregistrées qui étaient meilleures que d'autres? Par exemple, si un jeune joue au hockey, par mm-hmm. opposition à si il joue, je ne sais pas moi, au push, ouais. est-ce qu'on voit que son cerveau va se développer plus le sport est exigeant?
Bien, ça, c'est une excellente question. Ça n'a pas été analysé dans cette étude parce qu'il y allait vraiment avec le sport dans sa généralité. Okay. Ouais. Donc, la pratique d'activité physique au sens large du
peu
terme.
Okay.
Ouais. Je ne peux pas dire s'il y a des études qui ont été faites plus spécifiques de ce côté-là. Ça ne semblait pas dans le développement du cerveau des jeunes. Là.
Que ce soit pratiqué à l'extérieur ou à l'intérieur aussi, tout ça, là, c'était pas
exactement. Parfait. C'est très embryonnaire. Je pense que c'était vraiment la première étude qui analysait vraiment cette... Puis c'est une étude de 2023, là, donc c'est récent.
C'est nouveau. C'est tout chaud. Là.
Exactement. Donc, ça serait super intéressant, en effet, de mm-hmm. voir si certains types de sports, des sports qu'on a besoin plus de réflexion, mm-hmm. qu'il y a justement un contexte émotionnel aussi, parce que c'est la deuxième explication, c'est-à-dire que les enfants qui vont pratiquer un sport, ben, ils vont naviguer dans un environnement dynamique, ils vont coopérer avec des coéquipiers, ils vont prendre des décisions, comment, par exemple, savoir comment puis quand lancer une balle pour faire un maximum
leur
de points.
Leur position dans le jeu, là, ce que tu parlais tout à l'heure.
Exactement. Là. Donc, ces expériences-là vont plonger les enfants dans des situations qui nécessitent des émotions aussi, qui vont être liées à l'échec ou à la réussite. Fait que, tu sais, moi, de ce que j'en... C'est sûr que les sports individuels versus les sports en équipe ou les sports versus l'activité physique, mm-hmm. moi, j'aurais envie de croire que peut-être qu'il y aurait une différence. Parce que si je suis en équipe, bien, au niveau émotionnel, ça peut être complètement différent. Mm-hmm. C'est la relation à l'autre, oui. l'entraide entre coéquipiers et tout ça. Si on pratique un sport individuel, on n'a pas nécessairement cette même chose-là. On est en compétition avec d'autres personnes, mais avec nous-mêmes principalement.
Oui. Ça veut pas dire qu'on force moins au niveau
émotionnel.
Cardio et tout ça.
Non, c'est ça. Ça peut être aussi physiquement difficile qu'en équipe. Mm-hmm. de le faire individuellement. Puis ici, on remarque juste d'être actif dans son quotidien, mais pas nécessairement de jouer dans des sports ou de mm-hmm. pratiquer des sports, bien, d'après moi, ça peut avoir un impact différent aussi. Fait que super intéressant, peut-être
c'est
qu'on aura...
Pour gérer la défaite, oui. si, exemple, t'es avec une équipe d'hockey,
oui.
bien, t'es 15 personnes oui. qui peuvent avoir un point de vue. Ouais, mais là-dessus, on était bon, oui. mais quand t'es tout seul, exemple, un boxeur...
Oui.
Ouais. T'as la défaite, t'es comme, moi, c'est de ma faute.
Ouais, c'est oui, ça.
C'est ça.
Oui. Exactement. Fait que toutes ces émotions-là, tout ce contexte-là est différent selon la pratique mm-hmm. qu'on a. Puis moi, je pense que ça forme beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu une discussion là-dessus la semaine passée, justement, avec un collègue. Puis je trouve ça super enrichissant pour les jeunes, au-delà du cerveau, là, puis de quand on regarde les IRM, puis qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que c'est extrêmement enrichissant pour les jeunes d'avoir une pratique d'activité physique, que ce soit en seul ou en équipe, mais ça développe plein de caractéristiques mm-hmm. qui, après ça, quand on vieillit, sont super intéressantes puis super importantes. Fait que finalement, ben, les experts pensent qu'une combinaison d'activités physiques dans les classes d'éducation physique, donc justement où est-ce qu'on va pratiquer des sports peut-être un petit peu plus, des récréations actives, puis des moments spécifiques servant à intégrer du mouvement dans la journée des jeunes, ben, ça serait l'idéal pour optimiser le développement des cerveaux quand ils vont passer de l'enfance à l'adolescence. Fait que c'est un autre point important qui valide que, dans le fond, nos enfants ont besoin d'être actifs à l'école, certainement.
Il faut continuer à mettre des sous et des ressources là-dessus. Là.
Oui.
Ça, c'est clair.
Oui.
Merci beaucoup, Amo des mini-méthodes. Et là, on va sauter à ta portion bénévole pour la Fondation du Rhin, parce que ça a été une partie importante de cette année pour toi.
Oui.
On a parlé de la marche il n'y a pas tellement longtemps. Il a fait tellement beau.
Oui.
C'était magnifique.
Oui.
Il y a eu une belle participation. Et là, plus récemment, samedi dernier, vous avez fait la cueillette de canettes, de bouteilles de verre et aussi de dons. Mm-hmm. Alors, comment ça s'est passé si on fait un petit bilan là, pour la Fondation du Rhin cette année ici dans la vallée?
Oui, bien, ça a été une très belle année encore là. On a atteint notre objectif final là, qui était de 5 000 $. Donc,
oh, wow.
Ça, c'est fait pour 2023. On est bien contents. Donc, en dehors de ça, cette collecte-ci de canettes s'est très, très bien passée. Les gens sont extrêmement généreux. Là. À chaque fois qu'on fait des collectes ou qu'on fait des activités, les gens sont... Moi, ça me fait halluciner, là, la participation des gens. Donc, on est très, très, très contents. On a ramassé l'équivalent de 460 $ en canettes et en dons. Samedi passé. Wow.
Il faisait pas beau, on souligne.
Et il faisait pas très beau, mais il mouillait pas. Fait qu'on a été...
Les gens ont quand même été généreux.
Oui, 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 vraiment. Puis, donc, c'était super. Puis, les gens ont participé. Puis, on a eu beaucoup, beaucoup de dons aussi, honnêtement. Donc, vraiment, merci à tout le monde de participer dans nos activités. Puis, ça complète là, les activités pour cette année.
Et s'il y a quelqu'un qui nous entend ce matin, qui se dit hey, « j'aimerais ça quand même faire un don. J'ai manqué la journée des canettes, j'ai manqué un don. » Est-ce qu'il y a un endroit, une place, une adresse où ils peuvent aller faire leur don?
Oui, c'est possible de le faire sur le site directement de la Fondation du Rhin, si ma mémoire est bonne. Fait que vous pouvez aller vérifier, mais je pense que c'est possible. Sinon, il y a encore les sites des marches du Rhin qui sont ouverts, je pense, que c'est possible de faire des dons à cet endroit-là, mais c'est certainement possible à partir du site de la Fondation.
Et si on veut terminer avec ça, eh bien, bravo à l'équipe de bénévoles, parce que vous étiez quand même une bonne petite gang le samedi. J'ai observé ça quand je suis allée porter mes petites canettes. Alors, puis les canettes de la station aussi. Donc, merci beaucoup, Maud Émilie. On va te retrouver bien sûr mardi. Et si les gens veulent réentendre ta chronique, c'est possible de le faire au chga.fm. Merci beaucoup.
Merci tout le monde.